Quand vos reporters tendent
l'oreille au cœur
du Valois-Mulcien, c'est
l'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
Alors pour RVM.
Bonjour, c'est Yann.
Bonjour, Frédéric.
Voilà, c'est Hervé.
Alors qu'est-ce qui se passe ?
C'est
l'oreille dans le coin.
Bonjour Frédéric et Hervé, nous sommes dans les studios de RVM en compagnie du docteur Christophe Pinillo. Bonjour docteur.
Bonjour.
On va parler de l'IPA. Alors face à la pénurie de médecins, la proposition de loi introduit un accès direct aux infirmiers en pratique avancée, IPA, aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes. Elle élargit de plus les compétences de plusieurs professions paramédicales et revoit la permanence des soins. Docteur, jusque-là.
C'est tout bon, c'est bien ça,
c'est
la loi
bon. C'est la loi RIS. C'est une partie de la loi Stéphanie RIS qui a été déposée en octobre 22 et qui a été validée par l'Assemblée nationale en janvier 2023
oui.
Et qui est passée à l'Assemblée au Sénat et qui est passée au Sénat le 14 février.
Jour de grève des médecins.
Voilà. Aujourd'hui, on va parler de l'IPA, plus précisément, pas de la loi entièrement, mais de l'IPA. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça va apporter? Quels sont les avantages et les inconvénients de ce volet de la loi?
Alors, l'IPA, infirmière de pratique avancée, c'est un concept, on va dire, assez nouveau pour nous ici en France. Il n'est pas nouveau dans d'autres pays. Bon, par exemple, il faut savoir que depuis les années 60, il existe aux États-Unis, en Angleterre. D'autres pays d'Europe ont déjà mis en place cette formation d'IPA. Alors, pour nous, l'historique, c'est quoi? C'est un premier rapport en 2003. C'est le début des formations des infirmières de pratique avancée en 2018, donc les premières sont comme ces deux ans de formation, les premières sont sorties en 2020. 2022, c'est à peu près 1700 IPA sur les territoires en France, et l'objectif du gouvernement, c'est 5000 IPA formés pour 2024. Le diplôme, c'est un diplôme d'État, un diplôme de niveau master, donc 3 ans d'expérience d'infirmière avant d'entamer ce diplôme, une formation qui dure 2 ans. À la fois théorique et stage, donc une première année de tronc commun avec 2 mois de stage, une deuxième année où là il y a une sorte de choix de spécialisation, donc avec 4 mois de stage. Donc la spécialisation va se faire dans les pathologies chroniques, le suivi des pathologies chroniques stabilisées ou des polypathologies courantes. Ça se fait aussi spécialisation en santé mentale, spécialisation donc oncologie, cancérologie, hématologie et maladie rénale comme la dialyse.
Alors avant d'entrer dans le détail, petite question un peu polémique. Est-ce que cette loi ne vise pas à, en fait, pallier à un manque de médecins, une pénurie de médecins?
Alors, initialement, l'IPA est faite pour le suivi de pathologies chroniques. On a des IPA qui sont très spécialisées, comme en dialyse, qui sont très compétentes, qui existent depuis très longtemps et qui sont en milieu hospitalier en général. Ensuite, nous, ici, ce qu'on risque de rencontrer, c'est peut-être des IPA qui seront donc adossés à des structures de soins et dont le patient pourra aller directement consulter sans passer par son médecin ou par son centre de santé traitant. Donc la suite, on ne sait pas trop ce que ça va donner, quoi.
Mais les IPA infirmiers ou infirmières, ils sont quand même dans un centre de santé, ils ne peuvent pas exercer en libéral?
Alors oui, parce que l'IPA peut travailler en coordination avec un médecin. Donc initialement, ce sont des centres de santé où exercent à la fois médecins, infirmières et autres auxiliaires de santé. Ces équipes de soins vont protocoliser des prises en soins, des prises en charge de pathologies chroniques, parfois même dans des pathologies d'urgence. Et donc l'IPA sera là pour, j'irais faire ce travail dans une coordination, et elle se verra confier normalement le patient par le médecin du centre. Ce n'est pas le patient qui ira directement voir le médecin. Donc ça, c'était la phase théorique de l'IPA. Là, désormais, avec la loi RIS, le patient pourra directement consulter l'infirmière de pratique avancée, sans avoir l'accord de son médecin.
Mais dans un centre?
Ah, toujours, parce que les IPA vont en grande majorité exercer dans les centres. Je ne vois pas une IPA exercer en libéral seul dans un cabinet, ce n'est pas du tout le but actuellement, quoi.
Alors en fait, dans un centre de santé, on pourra avoir un seul médecin et une dizaine d'IPA, c'est ça?
Oui, c'est ça, on pourra avoir un médecin, alors 10 peut-être pas, mais 3 ou 4 IPA au service du centre de santé et un seul médecin qui coordonne les IPA.
Les infirmières n'ont pas les compétences du médecin, quand même.
Alors, j'espère pas, parce que je n'ai pas fait 10 ans d'études pour...
Bah oui, oui, oui.
Voilà, là, je suis entièrement d'accord. En fait, l'infirmière, donc, dans sa pratique et sa formation, normalement, devra, suivre le patient sur des maladies chroniques équilibrées. Il est certain que si j'ai un patient qui n'est pas du tout équilibré, qui me pose problème, je ne vais pas laisser faire le travail par l'infirmière. Par contre, si j'ai un patient qui ne pose aucun souci et qui a une maladie chronique, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas consulter l'IPA pour un simple suivi. À partir du moment où je connais son dossier, à partir du moment où il est déjà passé me voir et à partir du moment où il continue à venir me voir.
Nous sommes dans les studios de RVM en compagnie du docteur Christophe Pinillo. Nous parlons de l'IPA, infirmière en pratique avancée.
L'IPA, ça s'adressera que aux infirmières? Ou est-ce que les kinés, est-ce que les dentistes, les assistantes dentaires, tout ça, est-ce que même les pharmaciens, moi j'ai lu des choses sur les pharmaciens, auront une autonomie de prescription?
Alors, l'IPA, c'est une infirmière. Après, la loi RIS introduit d'autres accès directs dans les soins, notamment avec les kinés, les orthophonistes et chez les pharmaciens.
Pour les infirmières, ou les infirmiers, on dit toujours les infirmières, mais les infirmiers, il n'y a pas de raison, oui. On ne peut pas parler d'eux.
C'est vrai.
Et la formation sera comment alors?
La formation, donc c'est 2 ans, un tronc commun, qui est donc 2 mois de stage, et puis après une spécialisation.
En plus de ce qu'ils ont à l'heure actuelle, si j'ai bien compris. Il faudra 3 ans de pratique d'infirmière normale, que ce soit en libéral ou pas, ou en centre.
Oui, c'est ça, la formation, vous pouvez intégrer la formation dès le moment où vous avez fait vos 3 ans de pratique, quelle qu'elle soit, après vos études.
Et on retourne donc à la fac.
Alors, on retourne à la fac, des infirmières libérales arrivent à jongler un petit peu entre les deux, c'est-à-dire continuer un peu leur activité et aller à la fac en même temps, et il faut aussi faire les stages.
Et il y a un diplôme spécifique alors?
Ah oui, c'est un diplôme spécifique, reconnu, universitaire, équivalent d'un master.
Après, elles seront autonomes?
Alors, logiquement, c'est pour les rendre autonomes, ce diplôme. Après, elles seront autonomes, normalement, à l'intérieur d'une structure de soins. Elles ne pourraient pas être autonomes toutes seules dans un cabinet en libéral où, par exemple, un patient irait voir l'infirmière parce qu'il n'a pas de médecin traitant. Ça ne paraît pas concevable.
Moi, demain, je me coupe le doigt... Je peux aller voir.
Alors,
prenons des cas concrets, quoi. Ouais.
Bah, en cas concret, oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée, le cas concret. Voilà, moi j'ai un patient, il a une pathologie chronique qui est bien définie dans les compétences de l'IPA. Par exemple, il a un diabète type 1. Donc, diabète type 1 ou 2, il est équilibré, il fait bien ce qu'on lui demande, c'est-à-dire il fait bien son suivi cardio, ophtalmo, etc. Il fait bien ses prises de sang régulièrement tous les 3 mois. Je lui dis, vous êtes bien équilibré, j'ai pas trop le temps de m'occuper de vous, maintenant moi vous me verrez une fois par an, le reste du temps vous allez voir l'infirmière de pratique avancée tous les 3 mois. Ça c'est dans le cas de maladie chronique. Après on peut imaginer par exemple dans le cas de l'urgence, donc ça il y aura des infirmières IPA qui travailleront de toute façon dans les services d'urgence hospitaliers. Donc là ce sera différent, là vous allez arriver avec un motif de consultation, et là en fonction de ce motif-là, vous irez voir le médecin ou vous verrez l'IPA. Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, vous avez mal au ventre.
Ouais.
Mal de ventre, c'est assez général. Donc là, on ne sait pas trop. Donc là, vous irez voir le médecin. D'accord? Par contre, vous êtes constipé, vous ne vomissez pas, vous n'avez pas de douleur au ventre, vous n'avez pas de température. Ce simple motif de consultation, vous irez voir l'IPA. D'accord? Donc, en fait, c'est des motifs bien définis qui seront, en général, coordonnés par des médecins au niveau des urgences. Et on peut, ce cadre d'urgence peut très bien se transposer après dans une structure médicale où il y aurait des médecins qui disent, voilà, nous on a fait des protocoles pour l'urgence et on a des infirmières pour l'urgence.
Mais par exemple, on parlait du diabète, il peut y avoir une évolution de la maladie, l'infirmière, elle serait capable de déceler ça? Ou alors, c'est toujours le médecin qui va prescrire les rendez-vous annuels ou tous les 2 ans pour l'évolution de la maladie?
Alors,
comment ça va fonctionner?
L'infirmière, étant donné qu'elle est formée, elle est censée savoir, oui, là, il y a une mauvaise évolution de la maladie, donc je ne peux plus m'en occuper, je passe la main au médecin, d'accord? Ou alors, tout va bien, je continue moi-même.
C'est une conscience professionnelle accrue de l'infirmière.
Alors, oui, c'est ça, mais il faut savoir aussi, il faut bien se rendre compte, c'est qu'au niveau de la responsabilité, donc l'infirmière, elle, va faire son travail, elle va faire un enregistrement de ce travail dans le dossier médical, d'accord? Et elle doit donc en informer le médecin. Et la responsabilité, elle est partagée. C'est-à-dire que la responsabilité de l'infirmière ne sera pas entière, elle sera aussi celle du médecin. Alors, si par exemple l'infirmière voit 20 patients, moi j'aurai 20 comptes rendus à lire le soir de l'infirmière.
Ah, d'accord.
Bah oui, parce qu'il faut quand même que je me tienne au courant de ce qu'elle a fait. Parce que ma responsabilité est engagée.
Une question, est-ce que l'infirmière ou l'infirmier auront possibilité de donner des ordonnances, par exemple pour aller chercher des médicaments, tout ça, puisque quand on a une pathologie, souvent on a besoin d'ordonnances pour conduire son traitement. Est-ce qu'elles auront cette possibilité?
Alors oui, parce qu'en fait, elle va à la fois suivre la maladie, elle pourra faire donc des prescriptions d'ordonnance pour le suivi comme des prises de sang, elle pourra demander des examens aussi de radiologie, d'électrocardiogramme, elle pourra donc faire des ordonnances de renouvellement de médicaments et on parle aussi de primo-prescription sur certains médicaments qui seront bien définis normalement.
Au niveau de la consultation, si j'ai une consultation avec un médecin, est-ce que je vais payer pareil avec une infirmière?
Ça, c'est un sujet qui peut fâcher, effectivement.
Ah bah, il faut, j'ai noté, il faut aborder quand même.
Oui, non, vous avez raison, parce que là, c'est un sujet qui fâche.
Vous faites 10 ans d'études pour 25 euros par consultation.
Oui.
Je pense qu'avec 3 ou 4 ans d'études, alors, ça ne va pas être la même rémunération. Je pense que l'État ne doit pas être d'accord pour...
Alors effectivement, nous, c'est toujours 25 euros. Bon, par contre, pour l'IPA, il y aura... alors ça va marcher avec un forfait. Donc un forfait initial, c'est le premier contact avec le patient. Donc c'est en gros la première consultation de l'année, 58 euros.
Et c'est une consultation de qui alors, 58
de l'infirmière, euros. L'infirmière avec le patient.
Ah d'accord.
Oui. Bon après.
Sur votre recommandation.
Sur ma recommandation, ou alors peut-être maintenant par un accès direct.
D'accord.
D'accord. Les forfaits de suivi, donc l'infirmière pourra une fois par trimestre revoir le patient. Donc chaque fois qu'elle verra le patient, c'est 32 euros. Donc moi qui vois...
Quoi?
Oui, oui, non mais c'est pas
possible.
Ah si, si, non, c'est,
vous,
c'est ça.
Vous, c'est 25 euros la consultation et l'infirmière sera 32?
Oui. Alors moi, je prends l'exemple d'un patient diabétique, je le vois, allez, si je le vois une fois tous les 3 mois, ce qui est parfois même moins pour certains patients, je facture 25 euros la consultation qui peut durer parfois une demi-heure. L'infirmière, vous risquez de la voir, elle va facturer donc 32 euros la consultation. Je ne sais pas quel temps elle va durer la consultation, j'espère un peu plus que nous quand même, mais on en est là actuellement. Quoi.
Il compte les frais de déplacement dedans peut-être, non?
Ça, c'est des consultations au cabinet. Hein,
au cabinet, ouais, en plus, ça, c'est même pas. D'accord, c'est même pas l'infirmière qui se déplace chez les gens.
Ah, okay. Non, ça, c'est tarif au cabinet.
Et
oui, donc il y a un non-sens là quand même. Oui.
Bah, c'est-à-dire que beaucoup de politiques pensent qu'avec cet IPA, on va pouvoir régler en partie le manque de médecins. Beaucoup de maires demandent dans leur village d'avoir des médecins, ils ne peuvent pas en avoir, donc là on va leur proposer des IPA. Peut-être ils sont contents, peut-être la population sera également contente d'avoir au moins quelqu'un qui vient s'occuper de leur santé. Et donc pour avoir ces infirmières, il faut aussi pouvoir financièrement les attirer. Quoi.
Moi j'ai un médecin référent, est-ce que j'aurai un IPA référent?
Alors dans le cadre de pathologie chronique, ce n'est pas impossible. Je pense que ce sera même différent. Vous aurez actuellement, vous avez un médecin traitant.
Ah oui.
Dans l'avenir, vous aurez peut-être non pas un médecin traitant, mais un centre traitant. Ouais. Et dans ce centre-là, vous aurez une infirmière IPA référente et un médecin référent. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose.
Ah, c'est un gros truc à mettre en place quand même.
Oui, c'est un gros truc, bien sûr, mais les autorités veulent aller vite. Hein. Là, ils veulent former 5000 IPA pour 2024.
Et ça se met en place quand, docteur?
Ah ben les IPA sont déjà
en
place,
en ouais.
La rémunération est déjà en place, leur travail est déjà en place. Là, ce qui est nouveau, c'est l'accès direct aux soins par l'IPA. C'est-à-dire que vous êtes dans un village isolé, vous n'avez pas de médecin, vous aurez une IPA, et ben vous pourrez aller consulter l'IPA.
Merci docteur. Hervé, une conclusion?
C'est un sujet brûlant et je pense qu'on va se revoir pour parler de la loi RIS aussi en général.
Oui, c'est vrai que c'est un sujet brûlant qui fait remonter beaucoup de corporatisme dans les professionnels. Il faut par contre qu'on s'habitue à ce mode de fonctionnement, puisqu'il existe déjà ailleurs et qu'il fonctionne quand même en partie. Par contre, il faut faire ça de façon intelligente.
Ben, ça sera la conclusion.
Merci docteur. Donc c'était le docteur Christophe Pinillo qui était dans les murs de la radio RVM pour parler de l'IPA. Donc IPA, tu traduis Hervé s'il te plaît?
Infirmière en pratique avancée.
Bonne écoute sur RVM 93.7. Au revoir.
Au revoir.
L'oreille dans le coin.
Auditrice, auditeur.
À très vite sur l'antenne d'RVM.